choix. Ce qui veut dire aussi que pour que vous puissiez faire cela, il faut que l'utilisateur, la personne qui va être conseillée donc par la machine, puisse comprendre comment ça fonctionne. Et là, on touche à quelque chose de délicat.
L'éducation,
une intelligence artificielle très efficace, souvent, elle est capable de trier des données au-delà de ce que l'esprit humain est capable de faire. C'est son utilité. Donc là, la rendre explicable. Et c'est notamment un des axes sur lequel travaille, on en parle, le DARPA, donc, qui est l'agence qui, est aux États-Unis, est rattachée au ministère de la Défense et qui travaille sur les projets innovants et d'intelligence artificielle, qui disent d'accord, mais il faut que quand on met une intelligence artificielle en place, elle puisse être explicable par ceux qui vont l'utiliser, pour qu'ils puissent en faire un choix conscient, confiant et éclairé.
Et c'est un débat aujourd'hui avec l'éducation nationale. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout inquiet sur notre capacité à former aux algorithmes ou au codage à l'éducation nationale. Par contre, est-ce qu'on se pose la question aujourd'hui, et c'est une de mes recommandations, à la formation, à l'économie de la donnée. Il va falloir à un moment donné, probablement au tout début du collège, peut-être à la fin de la primaire, parce qu'on voit que les téléphones arrivent très très tôt dans l'éducation des enfants, il faut que cette formation à l'économie de la donnée soit présente, qu'on comprenne que peut-être on peut s'amuser parfois, mais quand on s'amuse, on donne des données personnelles et biométriques à des sociétés étrangères.
C'est Kurzweil, Nicolas Pargelian. Pourquoi est-ce qu'on rigole quand on voit ce type de personnage? Qu'est-ce qu'il incarne finalement de notre
Alors, on rigole peut-être enfin, un peu, parce qu'effectivement, il suscite en fait, l'imagerie, c'est-à-dire qu'il concentre sur sa tête ou sur son individu différentes dimensions. La première, c'est effectivement la conception technique, c'est-à-dire quelqu'un qui va proposer des solutions, des aménagements, des agencements technologiques. Ensuite, il a effectivement trouvé un relais, dans le cadre de Google notamment, c'est-à-dire une entreprise qui, en fait, a toutes les caractéristiques qu'on évoquait, c'est-à-dire le fait de gérer et de compiler des données, le fait d'avoir les ressources financières de manière à faire les investissements, et il a la capacité des serveurs, c'est-à-dire à faire en sorte qu'on puisse héberger, croiser et faire ainsi fructifier. Donc quelqu'un qui permet d'avoir à la fois la doctrine, qui est la sienne, avec justement le transhumanisme, le fait de dépasser la biologie humaine pour arriver à
le refus des limites.
Exactement, et de dire que la technologie peut pallier les différentes carences techniques ou faiblesses de l'usure de la machinerie humaine. Et donc, il n'y a pas de raison d'en plaisanter. Pourquoi ? Parce qu'il a en fait la rencontre de la doctrine, de l'ambition et des ressources financières et technologiques.
Les moyens à la fois.
Voilà. Alors, il a plus de 70 ans. Vous voyez, après, on va voir si effectivement sa vocation d'éternité ou de durabilité maximum va pouvoir se concrétiser. Mais en tout cas, on a affaire à des entreprises qui ont, avant, une entreprise avait un modèle strictement marchand, commercial. Là, on commence à avoir avec la Silicon Valley des entreprises qui ont un projet politique au sens
un projet de société, enfin, un projet pour l'humanité,
voilà, de collectivité, avec la fameuse qui a été longtemps la devise de Google, don't be evil, ne faites pas le mal, alors que jusqu'à présent une entreprise était plutôt préoccupée par ses profits, ses rendements et son déploiement. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, surtout que par les usages ils vont façonner un certain nombre de nos comportements. La banalisation que vous avez évoquée, c'est un fournisseur, un fabricant de téléphone portable qui a fait rentrer la reconnaissance faciale dans votre quotidien.
Mais l'humain qui n'aurait plus de contrôle sur la machine, c'est un mythe de science-fiction, Christine Clément, ou finalement ça peut arriver compte tenu de ses capacités et de cet apprentissage de la machine?
Alors tout dépend ce que vous appelez avoir un contrôle. Un exemple très simple, c'est qu'une machine, c'est un système d'aide à la décision sur le principe. C'est-à-dire que sur un nombre, une analyse de données rapide et massive, ça va vous donner des hypothèses ou des propositions de choix. La finalité étant que vous fassiez votre choix au milieu de tout cela. La question est-ce que vous allez continuer à faire preuve de votre libre arbitre ou pas? Là, vous pouvez avoir effectivement un principe de dépassement. Et c'est là où on a un véritable enjeu, c'est-à-dire la qualité de la donnée que l'on va mettre, les principes de biais, puisque l'idée étant de dire l'humain parfois prend des décisions nourries de biais, qui ne sont pas rationnels, donc qui ne sont pas les meilleurs pour lui. Alors que la machine, comme elle n'aura pas de biais, notamment de biais émotionnel, de biais cognitif,
concluez,
ferait quelque chose de parfait. C'est pas forcément aussi simple que ça.
Mais c'est